Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Les forces françaises sont prêtes à accompagner les patrouilles mixtes au Nord-Mali, vient de déclarer François Hollande la semaine dernière, après un tête-à-tête avec Ibrahim Boubacar Keïta à l'Elysée. Pourquoi, 3 ans après le début de la formation de l'armée malienne par les Européens du dispositif EUTM, pourquoi l'armée malienne est toujours incapable de défendre toute seule son territoire ?
D'abord, il faut bien comprendre que l'armée malienne venait carrément de zéro. Il y a 3 ans. Il y a donc depuis 3 ans du progrès dans cette armée malienne, mais n'a pas encore les aptitudes opérationnelles, toute la capacité opérationnelle nécessaire pour faire face aux djihadistes dans le nord. Ça s'explique d'abord par le fait que c'est progressivement qu'elle se fait de l'expérience sur le terrain. Et puis, la résistance est farouche côté djihadiste, d'où la nécessité d'un soutien à l'armée malienne.
Vous dites que l'armée malienne fait des progrès, mais récemment, face aux rebelles, les militaires maliens ont abandonné 2 positions importantes dans le centre du pays. Et cela pendant quelques heures, qu'est-ce qui ne va pas ?
Visiblement, il y avait des problèmes de transmission entre cette unité positionnée et le reste de l'armée. Elle n'a pas pu tenir le temps que les renforts arrivent.
Mais vous êtes sûr que c'est juste un problème de circonstance ? Il n'y a pas un problème de fond ?
Bah si, les militaires maliens ne se battent pas forcément avec la même abnégation que les djihadistes, parce que psychologiquement, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas la même volonté. Quelqu'un qui se bat pour une cause divine, pratiquement, n'a pas le même dévouement que quelqu'un qui se bat pour une cause qu'il ne comprend pas forcément toujours.
Oui, mais on peut dire la même chose des militaires français qui sont sur le terrain, non ?
Il y a une formation, il y a une vieille tradition militaire de l'armée française qui remonte à des siècles déjà. Ce qui fait que comprendre le drapeau, comprendre sa mission, comprendre son engagement, ne peut pas se gérer au même niveau que des armées qui n'ont que 50 ans. Il y a une expérience du fait aussi que l'armée française a, ce que n'a pas l'armée malienne. Depuis l'escarmouche, depuis 88, contre les forces de Thomas Sankara en 88, cette petite guerre voltaïco-malienne entre le Mali et le Burkina Faso, on n'a pas encore retrouvé une armée malienne en opération militaire, donc l'expérience doit s'acquérir aussi.
Donc il y a une culture de la guerre ?
Il y a une expérience du feu, il y a une vieille culture militaire en France, ce que l'armée malienne, mais de façon générale, la plupart des armées africaines n'ont pas forcément.
À Bamako en novembre 2015 et à Ouagadougou en janvier 2016, les terroristes qui ont attaqué des hôtels et des restaurants n'ont été neutralisés qu'avec l'aide des forces spéciales françaises. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour l'avenir ?
Bah si, c'est inquiétant, mais en même temps, il y a des lieux d'espoir qui peuvent venir par exemple d'Abidjan, où on s'est retrouvé dans cette même phase, mais ce sont les forces spéciales ivoiriennes qui sont intervenues en première ligne, c'est-à-dire qu'il y a des progrès de façon générale dans les armées africaines, même si elles ne sont pas toujours aptes à répondre à leur mission.
À Grand Bassam, en mars dernier, ce sont les forces spéciales ivoiriennes.
Qui étaient en première ligne.
Alors, en Côte d'Ivoire, l'armée a été longtemps une armée d'opérette. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Non, parce que en début octobre 2002, Jacques Chirac refuse à Laurent Gbagbo l'application des accords de défense.
Pour la reconquête de Boaké.
Pour la reconquête de Boaké. Et la reconquête de Boaké, en début octobre 2002, est un échec. À partir de ce moment-là, Laurent Gbagbo va comprendre la nécessité d'avoir une armée ivoirienne solide, armée, équipée. Alassane Ouattara, qui prend le pouvoir, comprend lui aussi l'enjeu d'avoir une puissance militaire forte. Et la menace djihadiste au nord et celle des pirates dans le sud emmène aujourd'hui les autorités ivoiriennes à comprendre qu'ils ont besoin d'une armée forte et solide.
Et est-ce que les efforts budgétaires suivent ?
Oui, pour la première fois, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi de programmation militaire, la loi 2016-2020, qui tape sur 80 milliards d'investissements pour l'armée. Donc il y a une volonté, depuis la guerre, d'avoir une armée ivoirienne plus forte et plus solide.
Longtemps, Félix Houphouët-Boigny s'est méfié de ses militaires. Comme il craignait un coup d'État, il a préféré confier la sécurité de la Côte d'Ivoire à l'armée française. Est-ce que ce calcul politique n'existe pas encore aujourd'hui dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ?
Ah oui, il peut y avoir, mais je pense qu'il est de moins en moins présent parce que l'Afrique évolue. Aujourd'hui, les coups d'État deviennent de moins en moins populaires. Ce qui fait que les chefs d'État les craignent beaucoup, beaucoup moins. En plus, les menaces, notamment le djihadisme dans toute l'Afrique de l'Ouest sahélienne et la piraterie, fait comprendre aux dirigeants qu'ils ont besoin d'une armée forte.
Depuis 3 ans au Mali, c'est l'armée tchadienne qui est en première ligne, aux côtés de l'armée française. Mmh. Du coup, quand il vient quelquefois à un sommet en Afrique de l'Ouest, le tchadien Idriss Déby n'hésite pas à secouer ses pairs d'Afrique de l'Ouest en leur disant qu'il serait temps qu'ils mettent leur armée à niveau. Pourquoi les pays d'Afrique de l'Ouest sont-ils en retard sur le Tchad ?
Parce que le Tchad a connu depuis 2006 jusqu'à 2008-2009 lui-même des problèmes avec le Soudan. Idriss Déby doit se rappeler qu'il a eu son palais carrément menacé en 2008. À partir de ce moment-là, il a compris la nécessité, lui, de se professionnaliser beaucoup plus. Alors que dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, on avait souvent des guerres civiles, souvent des coups d'État, mais pas de menaces venant de pays extérieurs. Et donc la nécessité d'une défense structurée forte ne s'est pas vite fait comprendre.
Donc avec le temps, vous pensez que les Africains de l'Ouest sauront également se défendre par eux-mêmes ?
Bah oui, c'est vrai qu'on peut être un peu sceptique quand on voit Boko Haram au Nigeria, mais je donne l'exemple toujours de Bassam, où l'armée ivoirienne a été en première ligne. Donc je pense que si les efforts sont continus, tous ces efforts-là vont finir par payer dans quelques années.
En 2013, c'est l'armée française qui a sauvé Mopti et peut-être Bamako. Mais du coup, est-ce que le gendarme français ne devient pas un protecteur bien commode derrière lequel certains États africains ont tendance à s'endormir?
Je pense que tout le monde veut s'émanciper le plus tôt possible. Mais je rappelle aussi que la présence du gendarme français n'est pas forcément uniquement du fait des Africains. Parce que l'Afrique est aujourd'hui le continent, la France exprime toute sa puissance. Elle ne peut pas être les États-Unis et la Russie en Syrie, elle peut l'être par contre au Mali, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc la France aussi, il trouve son compte. Voilà.
Arthur Banga, merci.